Les infos à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Conakry, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Élection en Tanzanie. Le principal parti d'opposition dans le pays, le Chadema, a annoncé jeudi soir qu'il ne participerait pas aux élections locales du 24 novembre en accusant le pouvoir de barrer la route à ses candidats. Selon le Chadema, la plupart de ses candidats aux postes administratifs locaux ont été indûment disqualifiés par les organismes chargés d'approuver les candidatures et d'autres ont été intimidés. Élection à l'île Maurice, les opérations de dépouillement sont en cours aujourd'hui au lendemain des élections législatives avec forte participation qui doivent déterminer qui gouvernera cet archipel de l'océan Indien pour les 5 prochaines années. Le taux de participation à cette élection, qui s'est globalement déroulé dans le calme, s'élève à 76,84%, a indiqué à la presse le commissaire électoral Irfan Ramon, soit un taux légèrement plus élevé que celui enregistré lors des élections générales organisées en décembre 2014, 74,11%. Dès la fin des opérations de vote jeudi soir, les urnes ont été scellées et transférées dans des salles sécurisées des 21 circonscriptions du pays. Ces urnes ont été ouvertes ce matin en présence des candidats. Les résultats définitifs devraient être connus d'ici à la fin de la journée. Mais il n'est pas impossible que les leaders des trois blocs électoraux en lice reconnaissent sa défaite plus tôt. Processus de paix au Soudan du Sud, un délai de 100 jours a été accordé hier aux frères ennemis sud-soudanais, à savoir le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, pour leur permettre de former un gouvernement d'union nationale. Le point avec Eric Manirakiza.
Les partis se sont accordés pour étendre la période de pré-transition de 100 jours à compter du 12 novembre 2019, a déclaré hier Sam Kutesa, ministre ougandais des Affaires étrangères. Les deux protagonistes n'ont fait aucun commentaire après leur rencontre à Entebbe près de Kampala. Le gouvernement de transition était initialement prévu en mai dernier, mais a été repoussé au 12 novembre en raison de désaccords persistants concernant notamment la formation d'une armée unifiée et des frontières des États régionaux. Le statut de Riek Machar qui vit en exil à Khartoum et sa sécurité une fois rentré à Djouba ne sont pas encore réglés. En juillet 2016, de violents combats avaient opposé leurs troupes à Djouba. Un premier accord de paix signé en août 2015 venait de voler en éclats. Salva Kiir et Riek Machar ont surmonté la profonde défiance pour signer en septembre 2018 un nouvel accord de paix à Addis Abeba. Un an après, cet accord n'a toujours pas enregistré de progrès tangibles, faisant craindre le risque d'une reprise des combats.
En Guinée, la population a manifesté en mars jeudi dans la capitale, Conakry, contre un éventuel troisième mandat du président Alpha Condé. Tout s'est déroulé dans le calme, Abdourahmane Dia.
Rouge, aux couleurs de l'opposition, une marée humaine s'est étirée sur plusieurs kilomètres, menant au stade du 28 septembre par l'autoroute Fidel Castro. Cette nouvelle mobilisation s'annonçait à haut risque, mais s'est finalement déroulée sans heurts. Des dizaines de véhicules de la police et de la gendarmerie ont jalonné le parcours. La foule scandait « Amoulanfe », qui signifie « ça ne passera pas », réclamant aussi la justice pour les morts et la libération des opposants emprisonnés. Au moins 16 civils et un gendarme ont trouvé la mort depuis le 14 octobre. Des dizaines de personnes ont été arrêtées. Le Front national pour la défense de la Constitution qui organise ces manifestations veut faire barrage à un projet prêté au président Alpha Condé de briguer un troisième mandat en 2020 et pour cela de vouloir réviser la Constitution qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. À 81 ans, M. Condé n'a rien dit sur ses intentions mais a lancé en septembre des consultations sur la Constitution. La semaine passée, les partisans du président ont organisé leur propre manifestation à Conakry.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La justice en Côte d'Ivoire maintenant, l'ancien chef des jeunes patriotes ivoiriens Charles Blé Goudé, en liberté conditionnelle dans l'attente d'une décision de la Cour pénale internationale, sera jugé par un tribunal de son pays pour des crimes présumés commis entre 2010 et 2011. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Le tribunal va le juger pour des faits concernant des actes de torture, homicide volontaire, viol, a déclaré le procureur général de la Cour d'appel d'Abidjan, Léonard Lébri. Il a assuré, je cite, qu'il n'y a pas d'identité des poursuites entre les faits jugés par la CPI et ceux examinés par les juridictions ivoiriennes, non seulement parce qu'ils ne concernent pas les mêmes événements, mais ensuite parce qu'ils ne couvrent pas la même période. Les avocats de Blé Goudé se sont retirés de la procédure, disant n'avoir eu accès à une pièce maîtresse que quelques heures avant de devoir déposer leur mémoire. Le procureur général a réfuté tout agenda politique dicté par le pouvoir à moins d'un an de la présidentielle. Des membres de l'opposition estiment que le pouvoir met tout en œuvre pour empêcher le retour de l'ancien président Laurent Gbagbo, aussi en liberté conditionnelle en Belgique, dans l'attente de la décision de la CPI. Mardi, la justice ivoirienne a confirmé en appel la condamnation à 20 ans de prison de M. Gbagbo pour le braquage de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest pendant la crise post-électorale de 2010-2011.
Sierra Leone, l'armée sierra-léonaise organise régulièrement des séances de yoga pour aider ses soldats à faire face au traumatisme de la guerre civile qui a sévi de 1991 à 2002. Une pratique qui, avec le temps, s'est avérée bénéfique pour de nombreux anciens enfants soldats, toujours hantés par les démons du passé. Le point avec Aozoma Compaoré.
Le soldat de première classe, Michael Karkbo, dit qu'il n'a pas réussi à oublier les souvenirs douloureux de son enfance dans la guerre civile en Sierra Leone. Jusqu'au jour où il a découvert le yoga.
Je suis traumatisé, mais je suis maintenant capable de me contrôler grâce au yoga.
L'armée sierra-léonaise organise régulièrement des séances de yoga pour aider les soldats à faire face au traumatisme du conflit de 1991 à 2002 qui a tué environ 50 000 personnes. C'est à l'âge de 12 ans que Karkbo a été kidnappé par des rebelles.
Nous avions des garçons qui avaient tué leur mère et leur père avant même d'avoir l'âge de 12 ans. C'est à cet âge-là qu'ils m'ont amené et je suis resté avec eux jusqu'à ce que je grandisse. Je n'avais personne pour m'aider ou m'encourager et personne pour m'aider à retrouver une vie normale. Personne. J'ai continué à me battre avec eux, accumulant des traumatismes et tuant des innocents.
Aujourd'hui, Karkbo est d'environ 100 militaires, hommes comme femmes, au quartier général de l'armée à Freetown, aux côtés de l'homme qui a persuadé ses supérieurs sur les avantages du yoga, le sergent Félixon Moussa.
Vous vous créez vos propres problèmes et après vous blâmez les gens. Pourquoi faites-vous cela?
Moussa a été lui-même formé par Tambia Faya, un autre ancien enfant soldat, qui est devenu le premier professeur de yoga qualifié en Sierra Leone en 2012. Ensemble, ils ont donné des cours de yoga gratuits dans les bidonvilles de Freetown. Mais en 2014, Faya est décédé, victime de l'épidémie d'Ebola qui a ravagé le pays. Moussa s'est alors résolu à poursuivre l'œuvre de son professeur.
Tu sais, lorsque je fais du yoga, je ne pense plus à ce qui s'est passé. Je pense au moment présent. C'est ce que je leur dis toujours. Oubliez le passé. Je sais que vous avez beaucoup souffert et pendant assez longtemps. Pensez à ce que vous êtes en train de faire.
Think about what you are presently doing.
Au cours de la prochaine année, Moussa espère pouvoir étendre le programme de yoga à des urgentistes, des employés d'hôpitaux et d'autres personnes qui pourraient avoir du mal à faire face à des expériences traumatisantes.
Et pour terminer au Bénin, le président Patrice Talon a promulgué jeudi la loi modificative de la Constitution adoptée par les députés il y a une semaine. La veille, les membres du gouvernement avaient lors du Conseil des ministres salué à l'unanimité ce qu'ils ont appelé les innovations contenues dans cette législation. De Cotonou, les précisions de notre correspondante Ginette Fleur à Dandé.
C'est fait. La révision constitutionnelle entre dans l'histoire politique du Bénin. Après plusieurs tentatives infructueuses, la pilule finit par passer, même si elle laisse assez de récriminations dans le rang des forces de l'opposition. Fidèle à sa démarche de reddition des comptes depuis la convocation du dialogue politique, le chef de l'État a fait le point de l'évolution de la mise en œuvre des recommandations consensuelles des assises de Cotonou. En conseil des ministres du mercredi 6 novembre 2019, Patrice Talon a salué la qualité du travail qui a été faite par les députés qui, selon ses dires, ont veillé à préserver les piliers fondamentaux du modèle démocratique et politique béninois. Il s'agit, entre autres, du caractère républicain et unitaire de l'État, de la laïcité, de la limitation du nombre de mandats présidentiels et de la limitation de l'âge des candidats à l'élection présidentielle. Cette promulgation laisse de nombreuses questions et des sentiments divers dans le cœur des Béninois qui espéraient une révision consensuelle de la Constitution. De Cotonou, Ginette Fleur-Adonné pour VOA Africa.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.